Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue à Philippe Lacoste, chef de la mission diplomatique auprès de la préfète de région. Je souhaite également la bienvenue à Claire Daucourt, représentante de la Commission européenne. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cet hémicycle de la région Grand Est. Nous sommes réunis pour le comité de suivi de la politique de cohésion sur le périmètre du Grand Est. Et donc, ce comité de suivi est toujours une occasion privilégiée pour à la fois réaliser une restitution des actions qui ont été menées depuis notre dernière réunion. Et nous nous sommes réunis la dernière fois il y a un an en présentiel à Châlons en Champagne. Certains d'entre vous étaient en vidéoconférence, mais c'est aussi une occasion d'échanger, parce que nous sommes conscients que la politique de cohésion en particulier et les fonds européens en général peuvent susciter des interrogations ou peuvent susciter tout simplement des réactions, des remarques, des propositions, et nous sommes évidemment preneurs de toutes vos contributions pour améliorer de manière perpétuelle le déploiement des fonds européens en région. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter donc un bilan de cette politique de cohésion, je souhaitais avoir quelques mots introductifs, notamment quelques mots introductifs qui puissent dézoomer quelque peu la situation et qui nous permettent de recontextualiser cette politique de cohésion. D'abord, vous le savez, nous sommes dans un contexte mondial qui est extrêmement mouvant, avec des conflits qui se développent à travers le monde, avec la résurgence des impérialismes en tout genre, on le constate avec la Russie en Ukraine, avec aussi l'arrivée au pouvoir de régimes autoritaires, on l'a encore constaté récemment en Argentine, et puis avec aussi de plus en plus de catastrophes climatiques. Pourquoi est-ce que je démarre avec ce constat? Parce que dans ce monde qui est mouvant, où en plus nous constatons des transitions en tout genre, transitions énergétiques, transitions numériques auxquelles nous devons faire face pour nos concitoyens, mais aussi pour l'économie mondiale, eh bien, l'Union européenne apparaît finalement comme la zone politique la plus solide. Et je vais le dire avec une petite pointe d'humour, mais avec un fond de sérieux, depuis 1492 et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, on appelle l'Europe le vieux continent ou le vieux monde. Et 5 siècles plus tard, on se rend compte que l'Europe est toujours le continent le plus riche, où les revenus sont les plus importants, bien sûr il y a des disparités, mais où les revenus globalement sont les plus importants, où les solidarités sont les plus développées, où les inégalités sont les moins fortes. Et je crois que nous pouvons évidemment mettre au crédit ces résultats positifs en Europe la volonté politique des dirigeants européens, avec notamment la politique de cohésion, mais aussi un héritage qui est extrêmement fort et qui est extrêmement solide. Je parlais pour l'Union européenne des revenus, des solidarités, des inégalités. Je pourrais aussi parler de l'espérance de vie, qui est très certainement aussi une des plus longues à travers le monde, et c'est mettre au crédit de nos politiques technologiques, sanitaires, etc. Mais demain, nous allons devoir faire face à de nouveaux défis. Je citais tout à l'heure les défis de la transition énergétique et puis de la transition numérique. Je crois qu'aujourd'hui, force est de constater que les géants du numérique dans le monde sont américains ou chinois, et nous allons devoir faire en sorte que demain, il y ait des géants de la robotique, de l'intelligence artificielle qui soient européens, pour que nous puissions aussi eh bien, être indépendant d'un point de vue numérique, ça représente un enjeu extrêmement important. On sait très bien que, économiquement parlant, l'or noir de demain, c'est la data. Et je crois qu'on peut le dire, sans modestie aucune, que la politique de cohésion peut générer des futurs géants de la recherche, de l'innovation, du numérique, parce que à travers la politique de cohésion qui est déployée en région sur le continent, eh bien, nous soutenons la recherche universitaire, nous soutenons la recherche et développement des entreprises et des industries du continent. Et nous en avons des exemples nombreux à travers la région Grand Est. Et puis aussi et surtout, pour dézoomer encore quelque peu et sortir peut-être de la politique de cohésion, je crois que demain, ce qu'attendent nos concitoyens de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne puisse à terme faire sa mue. C'est-à-dire de la même manière que nous sommes passés de la communauté économique européenne à l'Union européenne, nous aurons besoin demain de passer de l'Union européenne à une Europe qui soit plus politique, afin justement de faire face aux enjeux que je citais tout à l'heure, mais aussi pour qu'il y ait une Europe de la défense, une Europe diplomatique, une Europe aussi qui sache maîtriser ses frontières. Et je crois que c'est tout l'enjeu de demain si nous souhaitons que nos concitoyens adhèrent encore davantage à l'idée de la construction européenne qui, je le rappelle, ne doit pas être uniquement le fruit de décisions bruxelloises, mais elle est le fruit à la fois du développement des coopérations transfrontalières à travers le continent, mais elle est aussi le fruit des projets de nos concitoyens, des projets des forces vives de notre continent qui sont soutenus par la politique de cohésion. Et justement, si nous avons souhaité, avec la délégation des fonds européens, l'année dernière, mais encore plus fortement cette année, entamer une tournée des territoires pour valoriser les fonds européens, pour valoriser les projets quand ils sont financés par les fonds européens, c'est parce que nous souhaitons donner du sens à ces fonds européens. Les fonds européens, et plus particulièrement la politique de cohésion, ne doit pas être assimilé à un guichet. Les fonds européens, la politique de cohésion, ont un sens et, comme son nom l'indique, elles doivent permettre de créer de la cohésion au sein de l'Union européenne. Et elle est en quelque sorte le pendant du marché commun. Il n'y a pas de politique de cohésion s'il n'y a pas de marché commun, il n'y a pas de marché commun s'il n'y a pas de politique de cohésion. Je m'explique. Aujourd'hui, le marché commun dans l'Union européenne, il profite évidemment aux régions qui sont les plus industrialisées et donc aux régions qui sont les plus riches. Et donc il est tout à fait juste qu'à travers la politique de cohésion, nous soutenions le développement des territoires qui soient les moins riches. Et je pense que politiquement, il est important de pouvoir assumer et d'affirmer ce fonctionnement de l'Union européenne, d'autant plus que nous en profitons beaucoup sur la région Grand Est. Donc nous faisons évidemment la promotion de ces fonds européens à travers notre tournée des territoires, et ça nous permet en même temps d'expliquer au grand public que avec les fonds européens, nous ne finançons pas que des grosses entreprises ou pas uniquement des grosses collectivités qui ont une ingénierie capable de pouvoir constituer les dossiers de financement des fonds européens, mais nous soutenons une très grande diversité de projets et sur une très grande diversité de thématiques. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure, au moment du bilan, de vous faire état de tous les projets qui peuvent être financés. Ça peut aller de la boulangerie, de l'épicerie dans un village en Meuse ou dans les Ardennes. Ça peut être également donc la plateforme sportive dans une commune où nous avons un quartier politique de la ville, et ça peut être aussi la grosse entreprise qui a des projets très importants en termes de développement. Donc l'Union européenne est présente, bien présente, et nous devons évidemment profiter de cette année 2024 pour l'affirmer. Et je peux vous dire aussi, et vous le constaterez au moment de la présentation du bilan, que ces fonds européens sont extrêmement bien utilisés en région Grand Est. Sur la dernière programmation, c'est près de 3700 projets qui ont été soutenus par la politique de cohésion, ce qui représente plus d'un milliard d'euros. C'est une très bonne réalisation, d'autant plus que, en termes de taux de consommation de nos fonds européens, nous figurons parmi les meilleurs de France, voire des meilleurs d'Europe, et avec un taux de conformité qui est aussi parmi les meilleurs, ce qui signifie que non seulement nous consommons nos fonds européens dans l'intérêt de nos concitoyens, dans l'intérêt de nos territoires, mais en plus nous le faisons bien. Et donc, je crois que ces résultats qui sont encourageants doivent nous encourager sur la prochaine programmation et bien à poursuivre nos efforts, à continuer à travailler de manière partenariale pour que nous puissions à la fois être efficaces en amont et en aval. En amont, parce que tous les porteurs de projets potentiels, qu'il s'agisse de collectivités, d'associations, d'entreprises, doivent pouvoir accéder de la meilleure des manières possibles aux fonds européens. Et nous y attachons, notamment avec la création d'un réseau d'animateurs, d'animatrices de fonds européens qui sont dans toutes les maisons de la région Grand Est. Et en aval, parce qu'une fois qu'un projet a été financé par les fonds européens, nous devons le faire savoir dans l'objectif que j'ai fixé tout à l'heure, donner du sens et puis continuer à valoriser l'Union européenne et la construction européenne auprès de nos concitoyens. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier évidemment tous les porteurs de projets qui toquent en tout cas à la porte de la région Grand Est, de la délégation des fonds européens et qui jouent le jeu de la politique de cohésion. Je remercie aussi l'ensemble des équipes de la délégation des fonds européens qui est extrêmement professionnelle, qui est extrêmement compétente, et c'est grâce à ce professionnalisme de l'équipe de la délégation des fonds européens que nous réussissons à avoir ces résultats qui sont remarquables. Et puis enfin, je remercie évidemment la Commission européenne, Madame Daucourt, pour son soutien et pour nous permettre de continuer à déployer en région donc l'ensemble de ces fonds. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vais à présent céder la parole à Philippe Lacoste, donc chef de la mission diplomatique auprès de la préfète de région Grand Est.
Merci monsieur le conseiller, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet exercice important de transparence. Je crois que les fonds européens, monsieur le conseiller, vous l'avez dit, ont la réputation d'être complexes, difficiles d'accès, et donc ce qui fait que cet exercice annuel de suivi est à la fois l'occasion de faire le bilan et de regarder surtout ce qui pourra être fait à l'avenir. Vous dire aussi que c'est une occasion pour moi de témoigner de l'excellente collaboration entre les services de l'État et ceux de la région pour la mise en œuvre de ces fonds. Vous le verrez à travers la présentation, avec le même objectif qui est bien sûr de servir l'intérêt des territoires et de voir comment ces moyens qui sont à disposition pour accompagner les transitions peuvent être effectivement mis en œuvre. Et cette mise en œuvre, et nous le verrons tout à l'heure, repose d'abord sur des organismes intermédiaires. Beaucoup d'entre eux sont présents aujourd'hui, qui sont un petit peu la cheville ouvrière, et c'est eux qui vont transformer ces chiffres en actions concrètes pour le bénéfice de nos concitoyens. Je terminerai par un sujet qui m'est particulièrement cher parce que il se trouve que j'ai travaillé au cours de ma carrière beaucoup sur les questions de lutte contre le changement climatique. Donc je veux faire allusion au fonds de transition juste et finalement on a vu que avoir un accompagnement pour ces mesures dont les scientifiques nous disent qu'elles sont nécessaires et indispensables, sans participation, que ce soit des entreprises ou des citoyens, les objectifs tels qu'ils ont été identifiés ne peuvent pas être atteints. Et c'est pour ça que cette idée de fonds de transition juste, moi, me paraît qu'il existe aussi au niveau international, par exemple entre les pays de l'Union européenne et des pays en développement qui, à bon droit, font valoir le fait qu'eux polluent peu et qu'ils ont droit aussi à avoir un accès à l'énergie. Et bien, comment on peut les accompagner? Quel type de transition on peut imaginer pour des modes de production qui sont effectivement très émetteurs de gaz à effet de serre? Et dans une région comme la vôtre, c'est naturellement une problématique qui est très... tout à fait à l'ordre du jour pour que ce qui a fait finalement notre richesse commune, l'industrie, puisse se transformer et être à la pointe de l'innovation, y compris dans le domaine social. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction, mais encore une fois, je pense que le conseiller sera tout à fait d'accord avec moi, mais je souhaiterais pour ma part que s'il y a des questions, parce que c'est toujours des séances qui sont un peu administratives, puisqu'on doit faire des bilans, mais que vraiment, si les uns et les autres, vous souhaitiez vous exprimer pour qu'on améliore ces processus, je dirais vos encouragements, vos suggestions seront les bienvenus. Merci beaucoup.
Merci. Je laisse la parole à Mme Docou, représentante de la Commission européenne.
Merci, bonjour à tous, Monsieur le Conseil régional, Monsieur le chef de la mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du comité de suivi. Je voudrais tout d'abord remercier le Conseil régional et notamment la délégation au Fonds européen d'avoir organisé ce comité de suivi des programmes de la politique de cohésion. C'est bien sûr un honneur et un plaisir pour moi de représenter la Commission ici aujourd'hui en région Grand Est, une région qui continue de montrer son attachement au projet européen. C'est un plaisir pour nous, moi et mon collègue de la DG Emploi, d'être ici ce matin pour pouvoir échanger avec vous tous. On voudrait d'ailleurs profiter un peu de ces propos introductifs pour passer quelques messages. Tout d'abord, comme vient de le dire Monsieur la chef de la diplomatique, nous souhaitons réitérer l'importance des échanges entre tous les acteurs concernés par la mise en œuvre des programmes de la politique de cohésion et la Commission, comme le comité de suivi qui se passe aujourd'hui. Ces réunions sont en effet l'une des concrétisations du principe de partenariat qui souhaite rapprocher l'Union européenne au plus près des citoyens. Dans ce cadre, je voudrais inviter les membres du comité de suivi à participer aux échanges, aux discussions informelles qui auront lieu après les présentations de ce matin. Nous sommes ici aussi pour vous écouter et échanger avec vous. Nous sommes en contact permanent avec l'autorité de gestion, que je remercie vivement et publiquement pour sa collaboration. Mais ce contact permanent n'enlève rien à la valeur ajoutée des échanges directs que nous pouvons avoir avec vous. Concernant l'avancement des programmes maintenant, nous allons parler plus en détail ce matin, mais je voulais souligner quelques éléments. Pour les programmes FEDER FSE 2014-2020, les niveaux d'exécution, comme l'a dit M. Castaro, sont très satisfaisants et au-dessus de la moyenne nationale. La région Grand Est fait partie des leaders français et européens en la matière. Nous vous en félicitons et saluons les efforts que vous avez entrepris. Bien entendu, ces efforts doivent être maintenus pour une bonne exécution des opérations, notamment celles qui relèvent de REACT-EU. Dans ce contexte, il convient de présenter la proposition de la Commission sur le paquet STEP, qui sera bientôt adopté officiellement par le Conseil et le Parlement européen. Si cette proposition ne change pas la date d'éligibilité, qui reste le 31 décembre 2023, il y aura une augmentation du taux de cofinancement, une prolongation d'un an pour la soumission des demandes de paiement et des documents de clôture qui sont acquises. La Commission a ainsi pris en compte les difficultés des autorités de gestion face à l'accumulation des projets en fin de programmation, qui ont été aggravés par le retard de mise en œuvre dû aux crises récentes. En ce qui concerne le programme FEDER FSE FTJ 2021-2027, sa mise en œuvre a bien commencé, on verra un peu plus tard dans la matinée, et présente déjà une bonne dynamique. Nous nous réjouissons qu'un nombre important d'opérations ont déjà été sélectionnées. Il n'y a aucune dépense qui ont été déclarées à ce stade, mais je vous rassure, c'est aussi le cas pour la plupart des programmes français. Nous vous invitons donc à continuer et à accélérer la mise en œuvre du programme, notamment à l'aune de l'examen à mi-parcours, ainsi que du dégagement d'office prévu par le règlement en 2025. Évidemment, moi et mon collègue restons présents pour les équipes de la région et sommes aussi disponibles pour travailler avec vous pour soutenir la bonne mise en œuvre du programme. Je voudrais également souligner l'importance des actions de communication et de visibilité, puisque dans la conjoncture politique actuelle et quelques mois avant les élections européennes, où certains remettent en cause le projet européen, il est essentiel de prouver sur le terrain et avec du concret l'énorme valeur ajoutée de l'Union européenne pour les citoyens. Nous vous encourageons donc à continuer vos efforts en matière de communication, tout en prêtant une attention particulière aux opérations d'importance stratégique, qui sont non seulement une vitrine, mais surtout et avant tout une illustration concrète des réalisations de l'Europe. Avant de conclure, je voudrais aussi rappeler que les débats pour la politique de cohésion post-2027 ont déjà démarré et que la Commission attend les contributions des régions et des États membres. Enfin, nous comptons sur votre engagement et sur votre enthousiasme pour que la mise en œuvre des programmes puisse progresser au mieux. De notre côté, je peux vous assurer de notre pleine coopération et vous pouvez compter sur moi et mes collègues pour vous appuyer dans vos actions. Merci beaucoup.
Merci Madame Decroux pour vos mots et pour votre soutien en faveur de la région Grand Est et son développement. Je vous propose à présent, Mesdames, Messieurs, de passer à l'ordre du jour de notre comité de suivi. Comme vous le constatez sur l'écran, dans un premier temps, nous ferons une restitution des programmes 2014-2020 et du plan de relance européen REACT-EU. Nous rentrerons dans le détail. Nous poursuivrons ensuite avec les programmes 2021-2027 et nous pourrons vous faire un point d'étape sur l'état d'avancement de ces programmes. Et puis nous terminerons par la question de la communication qui a déjà été abordée par nous trois lors de nos propos introductifs, mais qui est une question éminemment importante pour continuer à susciter des projets, pour continuer à promouvoir ces fonds. On va donc démarrer avec les programmes 2014-2020. Je laisse la parole à Yoann Gardiner.
Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Nous vous proposons aujourd'hui, dans le cadre de ce comité de suivi, un bilan à date de la programmation 2014-2020, dans un premier temps concernant les programmes opérationnels régionaux gérés par la région. Programmation 2014-2020 vous le savez pour la plupart, 3 ans de fin de projet qui nous a amené jusqu'à fin 2023. Ce qui signifie que jusqu'au 31 décembre 2023, nous avons continué à programmer des opérations dans le cadre des programmes opérationnels 2014-2020. Le dernier comité régional de programmation ayant eu lieu au mois de novembre dernier, nous avons maintenant une photographie, un panorama des projets programmés. Il n'y aura donc plus de programmation sur 2014-2020, mais pour autant, nous pourrons encore passer quelques avenants pour clôturer les projets, pour des ajustements mineurs qui nous permettront, dans le cadre de la réglementation qui nous est imposée, de pouvoir mener à bien les projets soutenus. Sur cette slide, vous voyez l'état de la programmation qui est figé en termes d'engagement, mais pas en réalisation, avec en bleu les maquettes en montant UE, c'est-à-dire le FEDER, le FSE et l'IEJ. On voit donc les maquettes par fonds et par territoire. On voit également en orange, donc dans la prolongation de ces barres bleues, le montant de la surprogrammation. Nous avons surprogrammé les enveloppes pour absorber des sous-réalisations. Un projet prévu à 100 euros ne se réalise pas forcément à cette hauteur-là. Et donc, on doit anticiper cette baisse pour pouvoir consommer tous les fonds dédiés au Grand Est. On doit également anticiper les retraits d'opérations, les abandons, cela arrive surtout en fin de programmation et avec les crises que nous avons connues dernièrement. Et puis également d'éventuelles corrections dans le cadre de contrôle, d'audit, hein, c'est un aspect qui est particulièrement prégnant hein, sur les fonds européens. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'entendre Madame Claudine Gill hein, en charge des audits en Grand Est qui vous exposera ce mécanisme. Et donc ce que l'on peut voir, c'est qu'on est sur une surprogrammation sur tous les programmes, sur tous les fonds, avec une moyenne de 112% pour près de 1,1 milliard d'euros sur 965 millions d'euros de maquettes. Surprogrammation plus forte sur le FSEIEJ, avec 117%, 107% sur le CEDER et 123% sur IACTIU, le volet régional du plan de relance européen. Pourquoi ces différences ? C'est en raison de la spécificité des opérations accompagnées. Des opérations de formation sont plus sujettes à la sous-réalisation que des opérations d'investissement. Et sur IACTIU, nous y reviendrons, du fait de la typologie des actions sur 3 années liées à des crises successives, les abandons, les reports, les sous-réalisations sont plus importantes pour ce type de projet. Monsieur le Président l'indiquait en ouverture, près de 3700 projets, 2924 sur le FEDER, qui montre vraiment la différence et l'hétérogénéité, la complémentarité, le spectre hein, assez large de projets sur le FEDER, près de 500 sur le FSEIEJ et plus de 250 sur IACTIU. Lorsque l'on considère les thématiques, nous avons parlé chiffres en termes de surprogrammation, d'efforts, d'engagement des enveloppes dédiées au Grand Est. Ce qui est intéressant également, c'est de considérer les thématiques accompagnées. Ici, l'on peut voir que sur la partie haute de la slide, on est sur les opérations soutenues à travers le FEDER, hors IACTIU, et sur la partie basse de la slide, sur les opérations FSEIEJ, hors IACTIU. Sur le FEDER, avec plus de 620 millions d'euros de crédits européens engagés, on peut voir une forte dimension d'accompagnement sur tous les projets de RDI, recherche, développement et innovation, avec plus de 180 millions d'euros. C'est la partie bleue foncé que vous voyez sur cette slide. Suivent les thématiques économie et transition énergétique avec plus de 130 millions d'euros. Donc on retrouve avec ce triptyque les priorités qui ont été faites sur 14-20 en termes d'intensité de financement. RDI, économie, transition énergétique. Et l'on retrouve les obligations réglementaires en termes de ce qu'on appelle concentration thématique, c'est-à-dire l'obligation de concentrer un minimum de crédit sur une thématique prioritaire. D'autres thématiques d'importance, même si les enveloppes peuvent paraître moindres, avec notamment des volets urbains. Parenthèse rapide à ce sujet, si on ne voit pas de volet urbain sur le FEDER Alsace, c'est parce qu'il y avait un traitement transversal avec les programmes de l'Eurométropole de Strasbourg. Il y aura un point pour le bilan concernant ce programme tout de suite après. Et Mulhouse-Alsace Agglomération, hein, agglomérations toutes deux aujourd'hui représentées, qui bénéficiaient d'enveloppes dédiées dans le cadre du FEDER Alsace. S'il y avait cette approche transversale sur le FEDER Alsace, il y avait des axes dédiés sur Champagne-Ardenne et Lorraine, avec ces intensités que vous pouvez retrouver sur ce graphique. Et c'est dans ces volets urbains que l'on retrouve des opérations au plus près des territoires, qui ont été rappelées en introduction, que ce soit des équipements de proximité en quartier politique de la ville, que ce soit des projets d'urbanisme durable, d'intermodalité, voire de maisons de santé pluriprofessionnelles. Concernant le FSEIEJ, la concentration thématique est plus prégnante, avec près de 140 millions d'euros dédiés à la formation. Formation demandeurs d'emploi, public éloigné de l'emploi, etc. On retrouve ensuite une priorité forte hein, en Grand Est, puisque une enveloppe de 42 millions d'euros a été dédiée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, avec des opérations, notamment d'école de la deuxième chance, ou des opérations qui ont permis de raccrocher les jeunes sans emploi, sans formation, au marché du travail. Et enfin, les deux autres thématiques principales, les équipements sanitaires, après la crise Covid, tout le financement des masques, que ce soit dans le cadre d'établissements, que ce soit pour le grand public ou autre, ont été financés à travers le FSE. Et enfin, spécificité en Alsace, avec l'ESS et l'économie sociale solidaire et les actions de création reprise, qui ont permis d'être financés sur des actions de fonctionnement sur le FSE Alsace. Économie sociale et solidaire, que l'on retrouve maintenant sur 21-27, nous le verrons dans le point d'après, pour tout le Grand Est. Donc le succès qui a été rencontré en Alsace a permis de capitaliser, d'identifier les bonnes pratiques et d'être proposé à l'intégralité des territoires du Grand Est sur 21-27. Un focus important sur REACT-EU, le plan de relance européen dans son volet régional, avec plus de 220 millions d'euros pour plus de 250 projets en lien avec l'amélioration du système de soins, en lien avec la rénovation thermique pour la relance du secteur de la construction après les crises successives, en lien avec le développement économique pour les entreprises les plus touchées, les usages numériques pour accompagner les nouvelles modalités de relations avec les usagers ou les nouvelles habitudes de travail suite à la crise Covid, et enfin, des actions de formation pour les publics les plus impactés. Dans ce cadre-là, donc, on est à 123%, je l'indiquais tout à l'heure, et nous allons, dans cette phase de clôture, pouvoir identifier les sous-réalisations et les abandons. La moitié des projets a concerné la thématique santé. On peut le voir, près de 50% pour près de 109 millions d'euros de crédit. Et l'on retrouve tous les projets de groupements hospitaliers territoriaux. Les unités mobiles sanitaires, quelques communications que vous avez pu voir à ce sujet-là, CHRU de Strasbourg, de Nancy ou de Reims, mais également des projets d'IFSI-DIFAS, Institut Formation Soins Infirmiers Aides-Soignants, dont un projet qui sera visité cet après-midi à Thionville. On retrouve pour la rénovation thermique des actions d'envergure comme le plan Lycée Vert. Pour le développement économique, un pré-rebond, le BPI, pour le fonds de roulement des entreprises les plus touchées par la crise, des projets numériques, dont notamment le projet Explore Grand Est de l'Agence régionale du tourisme pour relancer ce secteur qui a été durement touché par la crise Covid, et enfin des projets de formation, dont notamment des actions spécifiques des écoles de la deuxième chance. Voilà pour ce focus sur REACT-EU et ce bilan 2014-2020 de façon macro sur les programmes opérationnels régionaux.
Merci, Monsieur Gardelier. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ou des réactions à l'Assemblée? Mais s'il n'y en a pas, c'est que tout était très clair. Donc, c'est le moment ou jamais. Après, vous n'y aurez plus le droit. On va poursuivre avec donc le bilan de la programmation sur l'Eurométropole de Strasbourg.
Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc en ce qui concerne...
Présentez-vous peut-être à l'ensemble de l'Assemblée.
Effectivement, donc Marion Pérez-Logel, je suis chargée de mission à l'Eurométropole de Strasbourg, donc en charge de l'animation de notre investissement territorial intégré et de la programmation et l'instruction des dossiers FEDER. Donc en ce qui concerne le bilan de la programmation 2014-2020, l'Eurométropole a bénéficié sur cette période d'une enveloppe de crédit FEDER de 8 millions d'euros déléguée par la région Grand Est, donc sur lequel nous faisons un bilan très satisfaisant puisque nous avons un taux de programmation qui dépasse les 100% et un taux de paiement de près de 87%. Il nous reste aujourd'hui 5 dossiers à solder sur la centaine de dossiers que nous avons programmés. Donc l'intégralité des crédits qui nous avaient été délégués sera bien consommée. Sur cette période 2014-2020, nous avons donc dans notre programme deux axes d'intervention, l'un qui concernait le soutien à la création et au développement des entreprises, et un deuxième axe qui concernait le développement du numérique sur le territoire de l'Eurométropole. Donc sur ces deux, le camembert sur la diapositive montre que nous avons programmé une majorité des dossiers qui concernaient le développement des entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc 60% des dossiers programmés relevaient de cette taxe d'intervention. Ensuite, 19% des dossiers concernaient le développement du numérique. On a aussi une part importante des dossiers qui visaient à soutenir le développement d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, et plus marginalement donc deux dossiers qui ont permis le développement de lieux d'impulsion sur le territoire. En ce qui concerne la répartition des crédits par catégorie de projet, donc plus de 40% des crédits sont allés soutenir des projets dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc dans le respect de la réglementation. Ensuite, un quart des crédits de notre enveloppe est venu soutenir donc ces lieux d'impulsion sur le territoire. 20% des crédits sont allés au soutien aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, et 14% au développement du numérique. Donc voilà pour une présentation rapide du bilan de notre emploi.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne vois pas de main qui se lève, donc pas de questions, tout est très clair. Je vous invite à poursuivre. Monsieur Gardinet donc, va aborder la question donc, de la certification.
Merci Monsieur le Président. Nous avons proposé un point focus thématique réalisation au niveau des programmes opérationnels. C'est ce qui est intéressant pour les territoires en termes de projets accompagnés, de thématiques accompagnées. En tant qu'autorité de gestion, en lien avec les autorités de certification aujourd'hui présentes, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau de la des défis de la Moselle, des défis de la Marne, nous avons, vis-à-vis de la Commission européenne, des obligations en termes de justification, de certification et de clôture des programmes. C'est-à-dire que la gestion d'un programme, ce n'est pas que, entre guillemets, la gestion d'un projet que l'on solde et l'agglomération de ces projets gérés. On est également sur plusieurs attentes en termes de production, de reporting et de certification de comptes et de contrôle. Un premier point, c'est ce qu'on appelle la certification des programmes opérationnels. Avec sur cette slide, au niveau des barres, en bleu, vous voyez donc les maquettes par fonds, par programme, en coût total. En coût total que nous justifions des dépenses auprès de la Commission européenne. Et donc, nous avons des programmes qui sont maquettés en coût total également. En orange, vous voyez le montant validé par la Commission européenne de ces coûts totaux, de ces dépenses certifiées. Donc, l'objectif, bien entendu, de justifier auprès de la Commission européenne 100% des maquettes pour que la région et les porteurs de projets et le remboursement de 100% des crédits prévus pour les territoires. Au-delà de 100%, la Commission européenne ne paye plus, on ne gagne pas plus que ce qui a été maquetté, mais nous pouvons surjustifier des dépenses totales, nous pouvons dépasser les maquettes en coût total, c'est ce que nous voyons avec les barres en mauve clair, et ce qui va permettre à la clôture finale des programmes de considérer ce stock qui est pour l'instant en attente et qui va permettre d'absorber d'éventuelles corrections en cas de contrôle finaux. Nous avons eu un contrôle de la Commission européenne qui est en cours, qui a eu lieu début décembre et nous n'espérons pas, mais s'il y avait des corrections financières pour l'autorité de gestion, ce delta permettrait de l'absorber. Le but, c'est de constituer une réserve afin de clôturer les programmes sans impacter les maquettes et donc les montants dédiés au territoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à date, on est à 95% de certification. Donc c'est un bon taux d'atteinte. Il nous reste encore 5% à justifier. en sachant que nous avons peu ou prou atteint 100% sur la totalité des fonds, la totalité des territoires, avec quelques crédits qui restent à justifier sur le Fédère Champagne-Ardenne, mais nous avons déjà les dépenses qui seront présentées lors d'une prochaine justification à la Commission européenne. Et le plus gros qui reste à justifier auprès de la Commission européenne, c'est REACT-EU. On peut voir 60% sur le Fédère REACT-EU, qui correspond à plus de 60 millions d'euros. Et pourquoi nous n'avons pas encore présenté, justifié, contrôlé ces dépenses auprès de la Commission européenne? Parce que ça correspond à des projets qui, pour la plupart, se sont finis fin 2023, et pour lesquels nous recevons encore les justificatifs de paiement que nous contrôlons, que nous présentons aux autorités de certification et que nous adresserons à la Commission européenne dans les prochains mois.
Ce qu'il faut préciser sur REACT-EU, c'est que comme Johan Gardiner l'a précisé tout à l'heure, nous avons quand même plus de 50% des dossiers en volume et en montant qui concernaient la santé. Et donc, ça veut dire que nous avions énormément de porteurs de projets qui étaient des établissements de santé, par exemple des centres hospitaliers. Et ces centres hospitaliers, en fait, n'avaient pas l'habitude de constituer forcément des dossiers pour accéder aux fonds européens. Ils n'avaient pas forcément non plus, l'ingénierie nécessaire, puisque ce n'est pas leur cœur de métier, c'est tout à fait normal. Donc, évidemment que ça a pris plus de temps, mais nous les avons évidemment accompagnés avec nos services pour faire en sorte que les projets soient financés.
Voici pour l'information en termes de certification. Ça relève de la responsabilité de l'autorité de gestion, mais en tant que partenaire membre du comité de suivi, nous souhaitions vous informer, vous partager ce point que nous avons essayé de vulgariser. On espère que ça a pu être compréhensible par la majorité d'entre vous, si ce n'est la totalité. Un autre point dont nous voulions vous parler, c'est le cadre de performance. Nous parlons de paiement, de certification, de clôture, mais il y a d'autres obligations réglementaires. C'est un point que nous vous présentons à chaque comité de suivi. C'est une exigence de réglementaire pour juger de la performance de chaque programme. En quoi cela consiste? Les valeurs cibles pour des indicateurs de réalisation et des indicateurs financiers sont fixés pour chaque programme, et on va juger la bonne performance d'un programme si l'on atteint ces valeurs cibles définies en amont. Ce qu'il faut comprendre, et vous le voyez sur cette slide qui présente les indicateurs du cadre de performance pour le Fédère Alsace, si vous voyez en horizontal trois barres, il y a trois seuils. Un seuil à 65%, un seuil à 85% et un seuil à 100%. Pour chaque indicateur, si nous sommes en dessous de 65%, nous pouvons avoir des corrections financières. Entre 65 et 85%, il y a des échanges avec la Commission européenne pour juger de l'atteinte ou du cadre de performance ou pour expliquer pourquoi nous n'avons pas performé sur tel ou tel indicateur. Et entre 85 et 100%, la valeur est considérée comme atteinte. Ce que vous pouvez voir pour le Fédère Alsace, c'est que nous avons encore un indicateur entre 65 et 85%, aucun en dessous de 65%, et ce qui signifie que nous n'aurons pas de pénalité financière, que la performance du programme est bonne et que nous avons encore des opérations qui vont être clôturées et qui vont permettre d'augmenter sur ce dernier indicateur. Il en va de même pour le Fédère Champagne-Ardenne, avec un seul indicateur en dessous de 85% concernant les logements sociaux, la rénovation énergétique des logements sociaux, mais des opérations en cours de solde vont permettre de dépasser les 85% et donc d'attester une bonne performance de ce fonds sur ce territoire. Il en va de même pour le Fédère Lorraine, avec un indicateur en dessous de 85% concernant le nombre d'entreprises accompagnées sur le territoire du Massif des Vosges, mais avec des opérations en cours de solde qui vont permettre de dépasser les cibles fixées. Et enfin, pour le FSE, vous pouvez le voir, toutes les cibles sont dépassées, avec donc une bonne performance du FSE que l'on retrouve sur les trois territoires Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Voilà pour le cadre de performance. Dans le cadre du rapport annuel de mise en œuvre finale, toutes ces informations seront détaillées, seront bien sûr adressées au comité de suivi et un temps de restitution finale, dont le détail vous sera proposé. Voilà, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur Gardiennet. Avez-vous des questions? Des remarques? Première question, c'est toujours la plus difficile, donc on peut passer à la deuxième, tout de suite. Non? Eh bien, poursuivons. Programmes opérationnels nationaux, FSE et IEJ.
Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien, apparemment oui. Donc par rapport au programme opérationnel national FSE+, 14-20, en coût UE au niveau de la programmation, donc sur la slide vous voyez encore les chiffres pour les trois régions, puisque en 2014 il y avait trois maquettes différentes. Donc globalement, au niveau Grand Est, on a surprogrammé un niveau de 110% et le taux de certification final en coût UE est de 91%. Il reste encore quelques CSF, mais l'essentiel est déjà validé. Si on fait un focus sur REACT-EU, donc REACT-EU, donc c'est les fonds qui sont intervenus sur 14-20 suite à la crise Covid. Donc REACT-EU a été mis en œuvre par 8 organismes intermédiaires sur les 11. Et il y a eu donc 101% de programmés et la certification pour l'instant s'élève à 72%. Alors, en ce qui concerne donc la clôture du PON 14-20, donc pour les CSF de la DRET, ils sont tous validés. Pour les CSF des organismes intermédiaires, on en est au niveau suivant. Donc pour l'Alsace, tous les CSF sont terminés et validés par l'autorité de certification. Pour la Champagne-Ardenne, il reste un CSF qui est en cours de réalisation, qui concerne REACT-EU. Et pour la Lorraine, tous les CSF sont traités, mais il y a encore 8 CSF REACT-EU et un CSF AXE 3 qui sont en cours de validation par l'autorité de certification. Globalement, pour les subventions globales 14-20, sur les 11 subventions globales qui ont été signées, 5 sont soldés et il y a encore 6 conventions globales qui terminent avec les derniers CSF. Donc concernant le programme IEJ, donc en Grand Est, on a programmé pile 100% de la maquette IEJ et le taux de certification s'élève à 84%.
Bien, merci. Toujours pas de réaction? Non. C'est extrêmement clair alors. Et bien, nous allons poursuivre avec la synthèse des audits.
Bonjour à tous. Donc, je remercie l'autorité de gestion donc, de m'avoir permis de me permettre de faire une présentation de la synthèse des audits réalisés sur les fonds FEDER-FSE. Mais avant cela, donc, je voudrais vous faire une petite présentation de l'autorité d'audit et de ses missions. Alors, l'autorité d'audit est une autorité qui est désignée par l'État membre et qui est fonctionnellement indépendante des autorités de gestion. Et en France, bon, vous aviez l'habitude de connaître la CICC, d'avoir affaire à la CICC, et depuis novembre 2023, l'ANAF, Autorité nationale d'audit des fonds européens, a pris la place, au moins dans l'intitulé, de la CICC. Et le rôle de cette instance, c'est d'apporter à la Commission européenne l'assurance du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées. Et pour cela, l'autorité d'audit a plusieurs missions à réaliser et plusieurs types d'audits qu'elle doit mettre en place au cours d'une programmation. Elle doit réaliser des audits des comptes, des audits systèmes et des audits d'opérations. Donc les audits des comptes permettent effectivement de certifier l'exactitude des dépenses qui sont déclarées à la Commission européenne. Les audits systèmes permettent d'attester du bon fonctionnement du système de gestion. Et puis, ce que vous connaissez peut-être mieux, les audits d'opérations que nous réalisons et que je vais vous présenter plus en détail. Et la mission essentielle donc de l'autorité d'audit, c'est bien sûr d'élaborer un rapport annuel de contrôle qui va retracer l'ensemble des contrôles qui sont réalisés sur tous les dossiers, sur toutes les autorités de gestion, et d'émettre un avis d'audit qui est envoyé à la Commission européenne donc en début d'année N+1. Alors, une petite présentation du service d'audit des fonds européens de la région Grand Est. C'est un service donc qui est placé sous l'autorité fonctionnelle de l'ANAF et sous l'autorité hiérarchique du président de région. Et donc, nous sommes 6 auditeurs, agents de la région Grand Est, bien sûr, comme je viens de le dire, et qui sont répartis par binôme au siège des anciennes régions composant le Grand Est. Notre positionnement est retracé dans un protocole d'accord qui est signé entre l'autorité d'audit et la région Grand Est, qui prévoit que la région met à disposition un certain nombre d'auditeurs pour effectuer ses missions d'audit d'opération. Et ce protocole garantit également un positionnement adéquat pour que l'indépendance des travaux d'audit soit garantie, puisque, bien entendu, un des maîtres mots, c'est la séparation fonctionnelle de la gestion et de l'audit des fonds européens. Les modalités d'action de ce service, donc nous appliquons des normes d'audit internationales, donc avec des missions qui sont normées depuis le lancement de la mission jusqu'aux conclusions de la mission. C'est une activité que nous exerçons de manière indépendante et objective et en toute confidentialité. Et nous appliquons également une procédure de vérification de la piste d'audit qui est détaillée par l'ANAF, et l'ANAF nous propose des listes de contrôle et une méthodologie de contrôle que nous suivons bien sûr en région dans nos missions. Alors, pour résumer, donc, le service d'audit des fonds européens, donc, qui est au sein de la région Grand Est, a une activité qui est déterminée par l'autorité d'audit nationale. Nous devons auditer des opérations qui sont financées par l'autorité de gestion région Grand Est, dans le cadre des PO, FEDER et FSE qui nous concernent ici, mais également Interreg Rhin supérieur. Et nous travaillons sur la base d'un échantillon représentatif de dépenses déclarées à la Commission européenne. Cet échantillon d'opération nous est confié par l'autorité d'audit national. Donc nous n'auditons pas n'importe quelle opération, nous recevons un échantillon représentatif des appels de fonds qui ont été faits par l'autorité de gestion au semestre précédent. Et nous avons plusieurs objectifs dans ces missions d'audit d'opération. C'est d'abord vérifier que les dépenses déclarées sont bien éligibles au regard des règles européennes et nationales, et vérifier également que les engagements contractés entre le bénéficiaire et la région Grand Est sont bien respectés en termes de réalisation d'opérations, en termes d'indicateurs de réalisation et de performance. Toutes ces vérifications aboutissent à la rédaction de rapports d'audit et des conclusions, où il peut y avoir, selon le cas, notification d'irrégularités financières ou non financières qui aboutissent à retirer des dépenses qui ont été déclarées initialement dans un appel de fonds. Si elles sont irrégulières, elles devront faire l'objet d'un retrait. Il peut également y avoir formulation de recommandations afin que le système de gestion puisse améliorer les choses et qu'on ne retrouve plus l'irrégularité qu'on a pu constater dans un audit a posteriori. Et la Commission européenne nous recommande fortement de formuler des recommandations et de participer donc par nos audits d'opération à améliorer les procédures de gestion. Alors, le retour maintenant sur les dernières campagnes d'audit. Donc, sur les campagnes précédentes, non, nous avons eu un taux d'erreur par campagne inférieur au taux de 2% qui est admis par la Commission européenne. Donc on peut se féliciter, ou en tout cas féliciter l'autorité de gestion, puisque voilà, on est dans des seuils qui sont admis, et l'autorité d'audit nationale a pu émettre des rapports annuels de contrôle qui sont validés sans réserve par l'autorité d'audit, et donc qui sont transmis en l'état à la Commission européenne. Alors, pour mémoire, sur le PO FEDER FSE Grand Est, au titre de la campagne 2022, nous avions un taux d'erreur brut de 0,59%, c'est-à-dire sur l'échantillon d'opérations que nous avons audité, et un taux d'erreur extrapolé, qui est, l'extrapolation se fait au niveau de tous les projets, toutes les dépenses déclarées au titre d'un appel de fonds, 1,09%. Au titre de la campagne 2023, là, nous avons un taux d'erreur brut de 0,2% et un taux d'erreur extrapolé qui s'établit à hauteur de 0,81%. Alors, ce sont des chiffres bruts, mais il faut maintenant donc passer à une appréciation un peu plus qualitative des choses et les recommandations que nous émettons à destination de l'autorité de gestion afin d'améliorer le système de gestion et de contrôle, et des points thématiques que je souhaiterais soulever devant vous pour des sujets qui peuvent être d'importance quand même assez significative dans le cadre d'un audit d'opération, à la fois pour l'autorité de gestion, mais aussi pour les bénéficiaires qui sont peut-être représentés dans cette salle. Une thématique importante, et ça ne va pas vous surprendre, la thématique marché public. Donc la recommandation que nous faisons à l'autorité de gestion, c'est de bien sensibiliser les bénéficiaires dès l'instruction du dossier sur le niveau d'exigence qui est attendu en matière de traçabilité de la piste d'audit. C'est extrêmement important parce que lorsque les pièces n'existent plus, ça pose un certain problème au niveau de l'audit. L'autorité de gestion doit disposer des pièces qui lui permettent d'attester que les règles de la commande publique et ses grands principes, donc libre accès, transparence, égalité de traitement, on a bien respecté ces règles dans la mise en œuvre des procédures de marché public. Et donc, pour le bénéficiaire, il faut bien conserver toutes les pièces, tant pour les marchés, la procédure initiale, que pour les avenants qui sont passés. Et donc, tous ces éléments, lorsqu'il y a un audit, seront examinés et feront l'objet d'une vérification pour voir si on répond bien à toutes les conditions qui sont posées, tant par le Code des marchés publics que par les règles européennes. Une seconde recommandation, et qui a de l'importance, et qui a pris un peu plus d'importance ces derniers temps, c'est que l'autorité de gestion doit aussi informer les bénéficiaires des attendus relatifs aux mesures de prévention et de détection des risques de conflits d'intérêts dans les procédures de marché. Ça, c'est vraiment une attention toute particulière, hein, parce qu'on doit pouvoir retracer, voir qu'il y a bien une séparation, et notamment, par exemple, avoir à disposition des rapports d'analyse, donc des offres reçues, et pouvoir être sûr que les personnes qui vont décider, qui vont attribuer le marché, n'ont pas de lien avec l'entreprise, par exemple, qui va être titulaire du marché. Voilà un petit peu pour un exemple d'anomalie. En ce qui concerne les corrections financières, donc, l'autorité d'audit applique les lignes directrices et les taux de correction qui sont prévus dans une décision de la Commission européenne de mai 2019. La Commission a souhaité donc établir des taux de correction parce que toutes les erreurs, toutes les anomalies sur des marchés publics ne sont pas de même niveau et de même importance. Et donc, il y a des taux de correction en pourcentage des dépenses déclarées qui peuvent aller de 5 à 100%. ou alors à 0% lorsqu'on est sur une erreur purement formelle. Un autre sujet qui impacte les travaux de l'autorité de gestion, c'est la vérification des règles en matière d'aide d'État. Ça, c'est un sujet qui est assez important parce qu'on peut, il faut faire cette analyse et on demande à l'autorité de gestion d'avoir une instruction qui soit vraiment très précise pour déterminer si une opération est concernée ou non par un régime d'aide d'État et de veiller également au choix d'un régime d'aide approprié parce que le pourcentage d'intervention ne va pas être le même, les critères d'application ne vont pas être les mêmes et il y a une incidence directe sur la gestion du dossier. Mais lorsque le choix d'un régime a été fait, il faut également vérifier que, lors du contrôle de service fait, que l'ensemble des critères du régime d'aide ont bien été appliqués et que donc on est certain que la subvention FEDER qui est versée est bien celle qui est attendue sur les coûts admissibles pour telle taille d'entreprise et que, notamment, un grand sujet également, c'est l'incitativité de l'aide, être sûr que l'aide a bien un effet incitatif et que le dossier de demande a bien été déposé dans les temps. Donc c'est important parce que pour le bénéficiaire, une erreur sur un régime d'aide d'État peut avoir une incidence financière significative et on peut arriver à un surfinancement finalement par rapport à ce qui était prévu initialement, c'est-à-dire arriver au moment de l'audit à dire que telle subvention n'était pas due en intégralité et du coup un reversement de la subvention FEDER. En ce qui concerne la publicité, et je pense que Madame Beaucourt l'a signalé et c'est important, d'avoir une visibilité de l'aide européenne, les règles européennes et notamment l'annexe 12 du règlement prévoient qu'on doit respecter des règles relatives à la publicité européenne sur tous les supports, donc affichage physique, site internet, communication. Il faut vérifier bien sûr et conserver les éléments relatifs à la publicité de l'aide européenne, ça c'est demandé à l'autorité de gestion. Et si sur la programmation 14-20, cette irrégularité, je dirais, était normalement sans conséquences financières, il y a une nouveauté sur la programmation 21-27, c'est qu'il peut être prononcé une correction allant jusqu'à 3% de la subvention européenne versée en cas de défaut sur la publicité européenne. Globalement, sur tous nos projets, il y a une ébauche, il y a de la publicité, l'absence totale, nous ne l'avons pas rencontrée, mais on voit qu'il peut y avoir une amélioration de ce côté, publicité européenne, et c'est vrai qu'en cette année d'élection, j'avoue, j'y suis aussi très sensible, moi, à se dire que si nos concitoyens peuvent voir que l'Europe intervient sur les territoires, c'est vraiment très important. Ensuite, un petit focus, mais là, sur des choses très classiques, l'éligibilité des dépenses déclarées. L'autorité de gestion doit disposer de toutes les pièces comptables relatives aux dépenses, les factures, les preuves d'acquittement. Mais il faut conserver aussi des justificatifs non comptables, c'est-à-dire que pour la preuve de la réalisation de l'opération, on doit pouvoir disposer de rapports, de comptes rendus de réunion, justifier du statut des bénéficiaires de formation pour les dossiers FSE, des photos de numéros de série des machines acquises. Eh bien oui, pour un dossier FEDER, c'est important de pouvoir savoir que ce qui a été financé correspond bien à ce que physiquement on va trouver dans l'entreprise. Donc tout ça va contribuer à ce que l'autorité de gestion et nous ensuite d'ailleurs puissions confirmer la conformité de l'opération par rapport aux éléments conventionnés. Les indicateurs de performance, on a vu également que ça avait une importance pour l'autorité de gestion et l'autorité de gestion doit vérifier la cohérence des indicateurs et disposer des justificatifs qui permettent d'assurer la qualité des valeurs déclarées. Voilà pour ce qui concerne ce petit focus et en termes de petites conclusions. Donc les États membres doivent veiller à la légalité et la régularité des dépenses qui sont inscrites dans les comptes présentés à la Commission. Les autorités de gestion et d'audit désignées par les États membres apportent chacun leur contribution à cette mission. On l'a vu par la qualité des vérifications de l'autorité de gestion avec des analyses approfondies lors de l'instruction et du contrôle de service fait, et aussi par l'examen a posteriori d'un échantillon d'opérations qui est réalisé par l'autorité d'audit et les travaux que nous menons chaque année. Voilà, j'en ai terminé.
Merci, Madame Gill, pour cette présentation. S'il n'y a pas d'intervention, je propose de passer à la suite et nous allons enchaîner avec les programmes 2021 et 2027 qui, vous le constaterez, démarrent très bien avec d'ores et déjà 23% de programmation sur l'ensemble des projets qui ont été validés. Et donc je crois qu'encore une fois, c'est à mettre au crédit, je le répète, bien sûr de la qualité de nos équipes, mais aussi à l'effort considérable que nous avons mis en termes de communication vis-à-vis des porteurs de projets potentiels. Monsieur Gardiennet, c'est à vous.
Merci, monsieur le Président. Sur cette slide, vous voyez dans le détail l'architecture du programme FEDER FSE Plus FTJ 2021-2027 et l'intensité de programmation par priorité. Vous commentez et comprendre ce qui vous est présenté. En mauve clair, vous avez le montant de la maquette par priorité, c'est ce qui correspondait aux axes sur 2014-2020. En violet, vous avez le taux de programmation à date. Et en orange, vous avez les projections, c'est-à-dire les projets qui sont déposés en cours d'instruction, qui vont être programmés prochainement, mais également les projets identifiés. Ça nous permet d'avoir un pilotage, de juger de la performance, de la capacité d'absorption des thématiques et d'ajuster au fur et à mesure nos prévisions et de se projeter sur un exercice dont nous aurons l'occasion de reparler dans le cadre du comité suivi, c'est l'examen à mi-parcours en 2025. Exercice que nous allons déjà lancer en termes de réflexion et d'analyse dès cette année. Monsieur le Président l'indiquait, 23% de taux de programmation un an après le lancement, donc nous avons commencé la programmation début 2023, nous sommes début 2024, 1 € sur 4 de l'enveloppe des près de 900 millions d'euros a déjà été engagé. Donc c'est une bonne dynamique, en sachant que du fait des crises, du fait du plan de relance européen, il y a eu un retard pour tous les programmes européens dans l'Union européenne en termes d'adoption, et en termes donc de déploiement. Donc nous aurons moins de temps sur cette période que sur la période passée pour engager et consommer. Donc nous n'avons, si on exprime ainsi, pas de temps à perdre en termes de programmation, de consommation et de justification, nous y reviendrons. 23% c'est un bon taux, sans forcément se comparer à chaque fois avec les autres régions, les autres États membres, mais il faut noter que nous sommes dans le peloton de tête en France et nous sommes, par rapport aux moyennes européennes et françaises, largement au-dessus. Si l'on considère priorité par priorité, on peut voir que pour le FEDER, nous avons un pic de programmation sur la priorité 1, qui correspond à ce qui est recherche-innovation, usage numérique, développement économique, et notamment en termes de perspective de programmation, puisqu'on voit 105% pour ces trois thématiques en termes de projection. Mais si l'on considère un objectif au sein de cette priorité, avec le développement économique, on a déjà pour 121% de projets identifiés. On a également un pic fort sur la priorité 2. La priorité 2, c'est cela concerne tout ce qui est efficacité énergétique, ENR, lutte contre le changement climatique, biodiversité, économie circulaire. Et au sein de cette priorité, nous avons déjà 145% de perspectives de surprogrammation sur l'efficacité énergétique qui couvre tout ce qui est rénovation thermique, logements sociaux, bâtiments publics, efficacité énergétique des entreprises, etc., etc. Donc pour le FEDER, nous pouvons voir d'un côté positivement qu'il y a une demande forte et qu'il y a donc des projets qui pourront être accompagnés, mais d'autre part qu'il va falloir se projeter sur la période du programme par rapport à ces demandes qui devront être confirmées pour pouvoir piloter au mieux le programme 2021-2027. Sur le FSE+, le pic se situe sur la priorité 4 qui concerne la jeunesse, avec 102% de perspectives. Ce sont notamment des lignes qui permettent d'accompagner les écoles de la deuxième chance, mais pas que, toute action de raccrochage, de soutien à la jeunesse se situe sur cette ligne-là. Sur la priorité 5 du FSE+, on est sur la formation, l'orientation, l'économie sociale et solidaire. On est à 78% de perspectives, mais les programmes d'envergure, notamment les plans régionaux de formation, nous permettent de nous projeter sur une consommation totale, voire une surprogrammation de ces lignes. Un mot enfin sur le fonds pour une transition juste, où on n'a qu'un pour cent de programmation. La programmation a débuté en novembre dernier. Monsieur le conseiller diplomatique l'indiquait en introduction, le Fonds pour une transition juste revêt une dimension spéciale pour les territoires carbonés, mais nécessite également l'observation d'une nouvelle réglementation qui donc a pu entraîner un décalage en termes de lancement de l'engagement des fonds. Donc 1%, cela signifie qu'on a engagé un projet. Pour autant, nous avons identifié plusieurs projets, dont récemment deux projets qui ont pu être validés, prévalidés par la Commission européenne. Vous avez été destinataire en tant que membre du comité de suivi cette proposition d'intégration au programme qui a depuis été validée par la Commission européenne pour accompagner deux projets sur le territoire de Saint-Avold, sur le site de la centrale charbon. D'ailleurs, hier, peut-être que vous avez suivi l'actualité, il y a eu une cérémonie de dynamitage du tour, qui est un acte fort en termes de transition industrielle verte pour ce territoire. Et donc les deux projets sont le projet PARS, projet donc, du consortium Suez, SK et Loop, projet d'usine de traitement de polymères, et le projet d'éco-plateforme industrielle de Gazelle Énergie, qui est propriétaire du site et qui va permettre de développer tout un nouvel écosystème autour de l'hydrogène vert. Donc ces deux projets vont maintenant être instruits et pour des raisons d'instruction, d'attente de régime d'aide d'État en termes d'économie circulaire ou autre, ils ne seront proposés à la programmation que cette année. Voilà pour cet état d'avancement pour le programme régional dans sa globalité.
Merci, Monsieur Gardinet. Toujours pas de questions. Ah! Monsieur.
Merci pour ces éléments. Donc, Alexandre Folmer du pôle de l'eau Hydreos Aquanova. Je caricature volontairement vos propos par rapport à la priorité 1 du FEDER, mais est-ce que, vu tous les programmes, les projets connus mais pas encore instruits, est-ce que ça veut dire qu'il faut se dire que cette priorité-là est déjà tellement avancée que entre ce que vous connaissez déjà, ce que vous connaissez pas, mais qui sont déjà dans les tuyaux, et ce qui sera à venir, c'est déjà un petit peu, on arrive déjà, faut faire attention en disant, il y aura peut-être plus de financement sur cette priorité-là. Ou au contraire, d'après votre expérience sur l'instruction des dossiers, vous savez qu'il y en a qui peuvent finalement échouer, même au niveau de la demande. Voilà, j'aimerais un peu avoir votre ressenti par rapport aux chiffres que vous nous avez présentés. Merci.
On prend une réponse global, on va passer à la deuxième question.
Oui, bonjour, Sébastien Lécole-Genon, délégué régional académique à la recherche et à l'innovation. C'était un petit peu dans la même direction, mais de façon un peu différente, à savoir que j'ai cru comprendre que certaines des sous-thématiques étaient déjà plus ou moins saturées, mais que d'autres ne l'étaient pas. Donc, est-ce que vous allez avoir une stratégie de diversification pour aller chercher justement des projets qui correspondent mieux aux sous-thématiques qui n'ont pas été déjà saturées?
Je crois qu'il y avait une troisième question au fond.
Oui, bonjour, Maud Sanchez-Brichou à la collectivité européenne d'Alsace. Question un peu dans le même sens, mais pour la priorité rénovation énergétique. Pour être sûr de bien comprendre le vocabulaire, vous parlez d'un taux de projection de 80%, mais de surprogrammation à 145%. Qu'est-ce que ça veut dire, la surprogrammation? Est-ce que c'est des dossiers qui ont déjà fait des lettres d'intention ou c'est juste votre ressenti global, enfin, il n'y a pas eu encore de dossier acté? Voilà, merci.
Alors, une réponse politique, mais authentique, et je laisserai ensuite M. Gardinet donc, compléter mes propos. D'abord, et je veux que le message soit clair vis-à-vis de vous toutes et vous tous, mais également vis-à-vis des porteurs de projets potentiels sur vos territoires, nous ne fermons la porte à aucun projet. Oui, aujourd'hui, nous avons des projections qui sont extrêmement positives. Ça nous permet aussi de nous rassurer vis-à-vis de la consommation des fonds européens. Ça permet aussi, ceci, une arme d'assurance vis-à-vis de la Commission européenne qui a des exigences, c'est tout à fait normal, sur la consommation de ces fonds européens. Mais comme l'a précisé tout à l'heure Johan Gardiner, vous avez forcément dans le lot des projets qui ont déjà été identifiés ou réceptionnés par nos services, soit des projets qui ne se feront pas, parce que le porteur de projet a décidé eh bien, d'abandonner ou de reporter son projet, ou alors vous aurez aussi, parmi les projets qui ont été identifiés et réceptionnés, il y a des projets qui ont été, en termes de montant, surdimensionnés, et donc ça permettra de dégager une enveloppe pour des projets. Donc évidemment, nous ne fermons pas la porte à de nouveaux projets. Vous pouvez continuer à en déposer. Vous pouvez aussi transmettre ce message sur vos territoires. Je vais laisser M. Gardiner répondre à la question de notre collègue de la collectivité européenne d'Alsace, qui est un petit peu plus technique.
Oui, très bien. Il n'y a pas de ressenti, hein, il n'y a que des chiffres. Tout est suivi par rapport à des montants, des dépôts, des lettres d'intention. Et pour répondre précisément à la question, 80%, c'est le taux de projection par rapport aux trois catégories de projets qui ont été citées, c'est-à-dire les projets qui sont en cours d'instruction, qui vont être programmés certainement cette année, les projets qui sont déposés, pour lesquels il y a encore des échanges, pièces complémentaires, accompagnement du porteur pour enrichir son projet, et les projets qui ne sont pas déposés, c'est là où il y a vraiment une variable d'ajustement qui est forte, mais ça nous permet déjà d'identifier cette tension. Et donc 80%, c'est pour une priorité, la priorité verte qui englobe, c'est l'architecture, hein, 5 objectifs. Et donc quand on parle de 145%, c'est au sein d'un seul objectif. Et pour finir sur ce point et donner l'exemple de cette tension et sur quoi nous nous basons. Là, nous avons eu un comité régional de programmation au mois de janvier, hein, donc tout récemment. Donc il y a peu de projets en cours d'instruction puisqu'ils ont tous été programmés. Nous avons sur la ligne efficacité énergétique, donc pour l'instant 14% de programmation. Nous avons pour près de 20 millions d'euros de projets qui sont déposés officiellement. Et nous avons en projet non déposé qui vont demander à être, analysés, réorientés, et qui vont peut-être être soit rendus, enfin, décrétés inéligibles ou autre, plus de 95 millions d'euros. Donc, ces 95 millions d'euros, on a la liste des projets, on a les montants indicatifs, mais ça doit être précisé. Et par rapport à cela, peut-être je terminerai en indiquant que les fonds européens permettent d'irriguer un grand nombre de thématiques, mais que dans toutes les réflexions sur le moyen d'accompagner au mieux le projet qui est présenté à l'autorité régionale, il y a une réflexion à 360 degrés avec les autres financeurs. Et parfois, lorsqu'il y a un besoin ou un projet qui devait être déposé à telle date et qu'une solution peut être trouvée ensuite, cette réflexion dans le cadre du partenariat que nous avons avec les autres financeurs, dans le cadre des accompagnements qui peuvent être faits au niveau local avec les maisons de région, il y a des recherches d'accompagnement avec soit des fonds régionaux, soit le département, soit l'État, voire même d'autres fonds européens. Donc, les fonds européens sont une source de financement forte, mais il y a tout l'écosystème de financement qui doit être considéré pour accompagner les projets et trouver des solutions sur les projets déposés.
Merci. Et d'où aussi, et là je m'adresse peut-être plus spécifiquement aux collectivités, de l'importance et de la pertinence des PPRTE qui ont été impulsés par la région Grand Est et l'État. Les PPRTE, c'est un modèle unique en France, c'est-à-dire les services de l'État et la région Grand Est qui, ensemble, se mettent d'accord avec l'ensemble des intercommunalités pour pouvoir identifier l'ensemble des projets structurants sur les territoires. Et puis, dans le cadre de ces PTRTE, M. Gardiner l'a bien détaillé, eh bien, on choisit la solution de financement qui est la meilleure pour les projets des territoires. Parfois, il peut s'agir des fonds européens, la politique de cohésion, ou pour les territoires ruraux, il peut s'agir aussi du FEADER. Et parfois, eh bien, la meilleure solution, ce sont des financements régionaux. Et je pense que ce qui compte pour les porteurs de projets, c'est que le projet soit accompagné, cofinancé, qu'il puisse être déployé dans l'intérêt de nos concitoyens. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, je cède la parole à Marion Pérez Logel pour l'Eurométropole de Strasbourg.
Merci. Alors, je vais rester à ma place, je serai assez, assez rapide. Donc sur la période 2021-2027, on est dans la même dynamique que la région, puisque au 1er janvier, nous avions programmé donc 10 dossiers qui représentent 23% des crédits qui nous sont délégués. Sur la période de 2021-2027, nous bénéficions, l'Eurométropole bénéficie d'une enveloppe de 10 millions d'euros donc de crédits FEDER. Donc nous avons à ce jour mobilisé deux des cinq mesures de notre programme FEDER. Donc nous avons programmé 9 dossiers sur la mesure dédiée au soutien à la création et au développement des entreprises sur le territoire, 9 projets qui seront très différents puisque nous avons par exemple un projet qui concerne des investissements pour un institut de beauté avec une subvention FEDER de 10 950 euros. C'est un projet qui se situe dans le centre-bourg d'une petite commune de la métropole et nous avons également un autre projet qui bénéficie au réaménagement de Pôle Sud, le centre chorégraphique de Strasbourg, pour un montant de subvention de plus de 470 000 euros. Donc voilà, une grande diversité de projets. Et nous avons également mobilisé l'axe dédié au développement de la santé de proximité pour un projet d'aménagement de maisons urbaines de santé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. En termes de projection là, pour les mois qui viennent, donc nous, Johan, si tu veux bien passer la slide, merci. Nous avons 6 projets actuellement en cours de programmation qui seront présentés au Conseil de l'Eurométropole du mois de mars et qui devraient porter le taux de programmation de l'enveloppe à 38%. Et nous aurons donc parmi ces 6 projets, 3 projets qui vont concerner la mesure de notre programme qui est dédiée au développement des infrastructures de proximité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc voilà, on reste sur un rythme de programmation qui est très rapide déjà dès le démarrage. Voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions.
Merci. Je propose que nous passions donc aux indicateurs, M. Gardinet.
Merci, M. le Président. Une slide qui s'apparente à ce que nous avons montré tout à l'heure en termes de cap de performance, avec une règle du jeu un peu différente sur 2021-2027. Nous n'avons plus de cadre de performance, c'est-à-dire de valeurs cibles liées à d'éventuelles pénalités financières, mais des indicateurs qui vont permettre de nourrir la réflexion et les discussions que nous aurons avec la Commission européenne dans le cadre de la révision à mi-parcours de 2025. Ici, pour le FEDER, ce que nous pouvons voir, c'est que les indicateurs et les valeurs qui ont été pensées au début de l'écriture du programme, pour certaines, ont été sous-évaluées ou mal évaluées. Donc on peut voir que lorsque un an de programmation passé, nous avons 3186% de taux d'atteinte d'une valeur en termes de superficie type Natura 2000, c'est qu'il y a peut-être un mauvais étalonnage de l'indicateur. Donc toutes ces valeurs seront réanalysées, réinterrogées et présentées au comité de suivi pour avoir une photographie plus précise de l'impact du programme sous réserve de la validation de la Commission européenne. Pour autant, précision, il ne s'agit que de valeurs prévisionnelles pour l'instant. Donc il faudra encore qu'elle se réalise avec les projets qui seront soutenus. Une autre précision pour votre information sur une nouveauté par rapport à 2021-2027, c'est que nous avons des indicateurs de réalisation et aussi certains indicateurs de résultats qui vont obliger certains porteurs de projets à rendre compte à la région en tant qu'autorité de gestion un an après la fin du projet. Par exemple, une entreprise aidée va devoir, et ça sera dans la, et c'est dans la convention, va devoir nous adresser le nombre d'emplois un an après la fin de la réalisation de l'opération. Donc ça, c'est un reporting que nous faisons en continu à la Commission européenne et qui permet donc, de juger de la pérennité à date de certaines typologies d'opérations. Donc là, on appelle votre attention également en tant que partenaire, intermédiaire auprès des porteurs de projets pour que ces données nous soient bien remontées telles que c'est prévu contractuellement. Ensuite, concernant le FSE+, pour les indicateurs qui sont des indicateurs de suivi des participants, nous pouvons voir que par rapport à un taux de programmation d'autour de 36% hein, pour le FSE+, sur 21-27, nous sommes dans les fourchettes qui nous permettent de considérer que nous, les indicateurs correspondent à la programmation. Donc à ce stade, il n'y a pas d'alerte sur des indicateurs mal paramétrés qui devraient être revus à court terme. Voilà pour les indicateurs. Et Monsieur le Président, nous avons également une information sur le dégagement. Donc le dégagement, je rappelle en quelques mots hein, l'exercice, c'est valable pour tout programme européen depuis la nuit des temps, depuis tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs financières à justifier en continu pendant la durée d'un programme. Un programme débute donc pour 2021-2027 a débuté en 2023, l'année dernière. Deux ans après, nous avons un montant de dépenses à justifier auprès de la Commission européenne, qui correspond à des dépenses réalisées par les porteurs et justifiées par l'autorité de gestion. Si nous justifions, présentons à la Commission européenne un montant inférieur à la valeur du dégagement de l'année 31 décembre 2025, nous perdons le différentiel négatif. Donc si nous présentons que 100 millions d'euros pour une valeur de 126, nous perdons 26 millions d'euros. Donc c'est un objectif important également en termes de conduite et de pilotage des projets. Et c'est pour ça que nous avons mis ça en perspective par rapport à la programmation actuelle. Montant bleu foncé, c'est 204 millions d'euros, c'est ce que nous avons programmé sur 2023-2024. Nous avons encore deux années de programmation avant le 31 décembre 2025. Qui peut permettre de juger de la réserve de dépenses qui pourrait être réalisée et justifiée en partie d'ici le 31 décembre 2025. Et les 765 millions d'euros, c'est tout le stock qui a été indiqué pour clôturer le programme en 2029 en justifiant chaque année d'un montant de dépenses. Donc c'est un exercice important qui oblige à cette programmation et cette justification en continu. Et pour finir sur ce point, et pour votre parfaite information, à date, nous avons déjà, au niveau de l'autorité de gestion, certifié pour plus de 22 millions d'euros, que nous présenterons à la Commission européenne fin avril, pour déjà lancer la mécanique, et donc considérer que nous aurons justifié, on espère encore plus hein, d'ici fin avril, au moins 22 millions d'euros par rapport à la cible de 126 millions d'euros. Voilà pour ce point.
Merci, M. Gardiner. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Oui, madame.
Oui. Bonjour, M. le Président. Bonjour, Johan. Donc, Anaïs Garbet, d'Art et Laure HLM, et pour l'Union aussi régionale HLM Grand Est. Donc, je représente les bailleurs sociaux aujourd'hui. Je voulais revenir sur la slide, Johan, où tu évoquais, je crois, 38%. Je crois que c'était deux slides avant sur les indicateurs, savoir si effectivement ça avait été d'ores et déjà actualisé de la programmation actuelle et puis des dossiers qui ont aussi été déposés par les organismes HLM qui sont quand même de forts mobilisateurs des fonds européens. On l'a pu le voir sur les précédentes périodes et puis sur les niveaux d'engagement autour desquels on peut échanger avec tes équipes. Rappeler aussi que effectivement nous travaillons aussi dans un écosystème de financement, donc nous mobilisons aussi bien le FEDER que Climaction pour la réhabilitation des logements sociaux. Rappeler aussi que notre autre gros financeur, c'est la Banque des Territoires, donc pouvoir veiller aussi à ce qu'il y ait une bonne articulation des financements et des critères d'éligibilité, aussi bien sur l'éco-prêt, qui est le plus petit dénominateur commun, et avec les autres financements, que ce soit le Climaction, le FEDER Et puis aussi, on peut penser au plan de relance qui est monté et financé par les services de l'État. Donc voilà, c'est un petit peu comprendre la construction de ces valeurs prévisionnelles et comment elles sont aussi actualisées. Tu as évoqué effectivement des indicateurs de réalisation, mais est-ce que d'ores et déjà, dans ces 38%, il y a tout ce qui est déjà possiblement déposé et engagé par les organismes de la région?
Monsieur.
Oui, bonjour, Thomas Beck, département de la Moselle. Je vous prie d'excuser ma question à retardement, mais j'ai bien compris que l'Eurométropole de Strasbourg donc, bénéficiait du dispositif qui est au sein du programme opérationnel 21-27, qui est finalement la reprise de l'ITI, mais je m'inquiétais de savoir si d'autres métropoles du Grand Est avaient postulé pour ce dispositif et où en étaient à ce moment-là les phases de contractualisation. Merci.
Sur l'ancienne programmation, donc nous uniquement l'Eurométropole de Strasbourg. Sur la nouvelle, nous en avons deux. Nous avons à la fois l'Eurométropole de Strasbourg et l'agglomération de Mulhouse. Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu d'autres candidatures de la part des autres métropoles ou des autres grandes agglomérations, puisque souvent ce qui peut effrayer la mise en place d'un ITI, c'est justement l'ingénierie qu'il faut mobiliser pour faire en sorte que les fonds soient déployés de la meilleure des manières, puisque ça a pu être évoqué au cours de cette réunion et au cours de réunions précédentes. Certes, avec les fonds européens, nous pouvons constituer un véritable effet levier sur les territoires, mais il est vrai que la constitution des dossiers et notamment l'avis du dossier avec la mobilisation de justificatifs, etc., ce n'est pas forcément simple, ça nécessite de réelles compétences que nous avons en interne avec la délégation des fonds européens, mais ce n'est pas simple à mobiliser. Cela dit, si pour une prochaine programmation, si nous avions la candidature d'autres métropoles ou d'autres agglomérations, alors que nous n'y serions pas fermés et que nous les étudierons avec plus grande attention. Par rapport à la question de madame, je vais laisser monsieur Gardinier répondre.
Oui, donc sur les 38% qui correspondent à l'indicateur logement amélioré dans le parc social, en fait, hein, donc la rénovation thermique des logements sociaux, tous les indicateurs correspondent uniquement au projet programmé, c'est-à-dire engagé. Ce n'est pas le stock qui n'est pas encore programmé. Quand on dit prévisionnel, oui, effectivement, je précise, c'est valeur prévisionnelle en ce sens où le projet a été programmé, donc c'est officiel l'engagement, mais le projet n'est pas encore réalisé. Donc là, on ne peut pas vous donner des valeurs réalisées, simplement prévisionnelles, mais bien conventionnées. Et donc, comme pour le reste, nous pourrons vous faire en continu, à terme, lorsque les projets seront plus avancés, des taux de réalisation en fait, hein, par rapport aux valeurs prévisionnelles.
Je propose de poursuivre avec donc la présentation du dispositif des chèques CREA. Je vais céder la parole à Marine Méry.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc effectivement, focus ce matin sur les chèques CREA, donc opération d'importance stratégique qui est rattachée à la priorité 1 du programme FEDER 2021-2027 et plus particulièrement qui émarge donc sur l'axe développement économique. Les chèques CREA, ce sont donc un dispositif lancé par la région Grand Est en janvier 2021 et qui a pour but de soutenir la création d'entreprises sur notre territoire. Il s'adresse principalement donc aux jeunes de moins de 30 ans, aux demandeurs d'emploi et aux salariés en reconversion professionnelle. Et ces chèques CREA donne accès à différents parcours d'accompagnement à la création d'entreprises sous la forme donc d'un accompagnement qui va de la préparation du projet au test d'activité À l'obtention d'un financement, bien entendu, puisque c'est particulièrement nécessaire, donc sous la forme d'un microcrédit ou d'un prêt d'honneur. Et il y a également un suivi post-création qui est réalisé dans ce cadre-là. Les chèques créa donc, sont d'un montant de 150 à 1000 euros. Ils sont utilisés par le créateur d'entreprise directement, qui va choisir son accompagnement auprès d'un opérateur, donc un opérateur labellisé par la région. Et il faut savoir que cette politique a permis de structurer un réseau de 75 opérateurs labellisés sur tout le territoire qui vont proposer donc des services différenciés. C'est une politique donc qui a rencontré un grand succès, puisque pour la première phase de labellisation, donc 2021-2022, pour laquelle le FEDER est intervenu à hauteur de 2,5 millions d'euros, ce sont plus de 12 000 bénéficiaires éligibles des chèques créa qui ont pu en bénéficier, qui se sont vus adresser donc un chèque créa. Et fort de ce succès, poursuite donc du dispositif sur une phase 2023-2024 que nous venons de conventionner à hauteur de 4 millions d'euros de subventions FEDER. Il faut savoir que s'agissant d'une opération d'importance stratégique, une communication particulière sera réalisée et est en cours de structuration avec la direction métier, donc avec la direction compétitivité et connaissances de la région. Elle se basera vraisemblablement sur les créalabs. Voilà.
Merci Madame Méry. Ce sujet suscite-t-il des interrogations ? Non, je propose de poursuivre avec les écoles de la deuxième chance. Caroline Lebrun.
Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc effectivement, petit focus sur les écoles de la deuxième chance qui sont estampillées opérations d'importance stratégique pour le FSE+. Et donc elles émargent sur la priorité 4 dédiée à la jeunesse. Il s'agit d'un dispositif qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l'emploi. Donc ce sont des jeunes généralement décrocheurs et donc qui sont en rupture avec le système scolaire et qui n'ont généralement pas de diplôme. Donc ce dispositif vise à leur proposer un parcours de formation et d'accompagnement individualisé qui va leur permettre d'intégrer directement l'emploi ou d'accéder à une formation professionnalisante ou qualifiante. Donc le choix a été fait de mettre l'accent sur ce dispositif en raison de son impact sur les jeunes fragilisés de la région dans la continuité de ce qui avait pu être fait sur la programmation précédente avec notamment l'initiative pour l'emploi des jeunes et également en raison du poids financier de ce dispositif au niveau de la programmation FSE+. En Grand Est, nous avons 4 écoles de la deuxième chance qui représente 24 sites de formation, donc ce qui permet un maillage assez fin du territoire et une proximité des jeunes. À ce stade, nous avons programmé 3 dossiers sur les années 2022-2023, qui représentaient des années de transition avec la programmation précédente. Et nous avons actuellement 4 dossiers qui sont en cours d'instruction et qui seront présentés au prochain comité de programmation, donc au mois de mars. Ce sont les dossiers de l'année 2024. En termes de montant FSE programmé, donc nous avons actuellement près de 7 millions de FSE programmés sur ce dispositif et 5 millions de FSE dans les tuyaux pour le prochain comité de programmation. Et en termes de participants, donc nous avons à ce jour plus de 2500 participants. Donc il s'agit de personnes qui sont réellement entrées en formation dans le cadre des écoles de la deuxième chance et qui sont enregistrées dans notre base de données de suivi des participants. Donc, dans la mesure où il s'agit d'opérations à entrée-sortie permanente, il y aura bien sûr d'autres participants qui seront enregistrés tout au long de l'année 2024 et dans les années à venir jusqu'à la fin de la période de programmation. Et petit point également sur un événement de valorisation qui est prévu cette année, puisque comme ma collègue l'évoquait tout à l'heure, donc les opérations d'importance stratégique sont effectivement soumises à des obligations de valorisation spécifiques. Et donc dans cette optique, nous avons prévu d'organiser un événement le 20 juin prochain à l'occasion du 20 ans du réseau des écoles de la deuxième chance, donc qui se déroulera entre Reims et Chalon et auquel donc nous avons prévu d'inviter la Commission européenne afin de faire un focus sur les financements européens qui permettent le bon fonctionnement de ce dispositif. Voilà, je me tiens à votre disposition s'il y a des questions.
Merci Madame Lebrun. Enfin d'interrogation. Je propose que nous poursuivions donc notre comité. Nous allons embrayer avec les programmes nationaux FSE+ et FJT. Et donc, je vais donner la parole à Madame Spörer pour nous parler du programme national FSE+.
Merci. Alors du coup, rapidement, donc le programme national FSE+ comporte 7 priorités, donc 3 priorités centrales. La priorité 1 qui vise à favoriser l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale. La priorité 2 qui s'adresse aux jeunes et qui vise à renforcer leur emploi et aussi la réussite éducative. La priorité 3 permet d'accompagner les mutations économiques, améliorer les compétences et les systèmes d'éducation. Il y a également 3 priorités complémentaires. La priorité 4 qui vise à promouvoir un marché du travail inclusif et sain. La priorité 5 qui vise à apporter l'aide matérielle aux plus démunis, hors aide alimentaire en Grand Est. Et la priorité 6 qui vise à favoriser l'innovation sociale. Il y a aussi une priorité 7 mais qui répond aux défis spécifiques des régions ultra-périphériques, donc qui ne nous concerne pas. Donc l'enveloppe de crédit des FSE+ en Grand Est s'élève à un peu plus de 168 millions d'euros, dont 74% a été délégué à 10 organismes intermédiaires sur les priorités 1, 2 et 6. Alors, au niveau du suivi financier, en janvier donc 2024, soit à peu près au bout d'un an de programmation, sur la priorité 1, donc qui a une enveloppe de 122 millions d'euros, 20 millions d'euros ont été programmés, donc ce qui correspond à peu près à 16% de taux de programmation. Sur la priorité 2, donc avec une enveloppe de 38 millions d'euros, on est à 19% de programmation. Et sur la priorité 3, il y a 1 million de programmés pour le moment sur une enveloppe de 3 millions et demi. Les trois autres priorités n'ont encore pas fait l'objet de programmation pour l'instant. Il est à signaler que sur la priorité 5, la maquette initiale était de 1 million d'euros, mais il y a une partie de ce million d'euros qui est remontée au niveau national, puisqu'en fait il y aura des appels à projets qui seront publiés au niveau national. En ce qui concerne les appels à projets donc déjà publiés, donc 57 appels à projets ont déjà été publiés en Grand Est, donc 12 par la DRETS, 47 par les organismes intermédiaires. Ces appels à projets correspondent à une enveloppe de 92 millions d'euros. Ils sont majoritairement sur la priorité 1, hein, puisque vous pouvez voir donc il y a 31 appels à projets publiés par les OI et 4 par nous sur la priorité 1, l'OSH, et également 7 appels à projets publiés par les organismes intermédiaires sur la priorité 1, l'OSL. Sur la priorité 2, il y a eu 10 appels à projets de programmés, et après donc sur la priorité 3, il y a eu 2 appels à projets, et puis les autres, un appel à projet sur la priorité 4, priorité 5 et priorité 6. Pas priorité 5, pardon. Un sur la priorité 4, OSC et OSD. Donc un petit focus sur 2 appels à projets de la DRET. Un appel à projet qui a été donc publié fin d'année 2023 sur la priorité 4. Pour un marché du travail mieux équilibré entre les femmes et les hommes et accessible à tous. Donc cet appel à projet, il y a eu 6 dossiers déposés par 4 nouveaux porteurs, et donc il y a eu 5 porteurs, dont un qui a déposé un dossier sur l'OST et un autre sur l'OSD. Donc les actions sont très diversifiées. Bon, elles sont en cours, enfin les dossiers sont en cours d'instruction, mais les projets sont très variés. Par exemple, il y a un projet qui vise qui propose des actions pour maintenir en emploi les aidants. Il y a un projet qui souhaite sensibiliser les acteurs économiques au fait que sur le marché du travail, toutes les personnes ont des atouts, quel que soit leur âge, leur sexe. Un autre projet qui vise à mettre en valeur les savoir-faire des anciens pour optimiser leur fin de carrière. Aussi un autre dossier qui a pour but d'améliorer les conditions de travail en luttant contre les violences subies au travail. Nous avons aussi publié un appel à projet sur la priorité 2 OSS avec pour objectif de favoriser la mobilité européenne et internationale des apprentis. Donc là, il y a eu trois dossiers déposés qui sont en cours d'instruction actuellement. Alors, concernant le nombre d'opérations programmées, donc actuellement il y a 197 opérations qui ont été programmées, dont une énorme majorité sur la priorité 1, hein, avec 144 opérations programmées sur la T1 OSH. Et puis, bon, là, vous voyez la répartition, donc aussi une grosse partie d'opérations publiées sur la, pardon, programmées. Sur la priorité 2 OSA avec 11% d'opérations de la GD et 6% des opérations des OI. Alors concernant la répartition des enveloppes entre les organismes intermédiaires, donc les enveloppes déléguées aux OI le sont majoritairement sur la priorité 1 OSH avec 73 millions d'euros. Et sur la priorité 1 OS, donc tous les OI gèrent des crédits sur la priorité 1 OSH. Sur l'OSL, tous les OI ne gèrent pas d'OSL, mais il y a quand même 6 millions d'euros que les OI doivent gérer. Sur la priorité 2, c'est pareil, ça concerne pas tous les OI, mais il y a aussi 6 millions de crédits délégués sur l'OSA. Et enfin, sur la priorité 6, 3 OI alsaciens, notamment, gèrent de la priorité 6. Au niveau du nombre des participants, donc actuellement, il y a 19 000 personnes qui ont déjà bénéficié des différentes opérations avec 43% de femmes et 57% d'hommes. Si on regarde les indicateurs de réalisation, donc là les chiffres qui sont affichés, il faut souligner qu'un participant peut cocher plusieurs cases, ça peut être un jeune et une personne inactive en même temps, donc les personnes les bénéficiaires les plus nombreux sont les chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée, les personnes exerçant un emploi ou indépendants et les jeunes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Non. Merci, Madame Sureur, pour cette présentation qui a été très exhaustive et très, très complète. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Non. Et je propose de poursuivre avec la présentation donc, du fonds de transition juste, FTJ. Je cède la parole à M. Otero.
Merci, M. Sergenard. Alors, M. Otero, est-ce que ça vous était associé à la presse française pour permettre de rester à ma place si Johan. Donc, sur le programme national FTJ, il y a un certain nombre d'informations qui avaient déjà été données l'année dernière au précédent comité de suivi. Donc, on a déjà partagé avec vous un certain nombre d'informations sur ce nouveau programme adopté en novembre 2022. C'est un programme, je le rappelle en synthèse, qui accompagne la transition énergétique et industrielle des territoires concernés par une forte émission de CO2 dans la transition vers une économie neutre et décarbonée. Ce programme au niveau France est géré via la DGFiP à hauteur de 309 millions d'euros pour la période 2021-2027. Dans le Grand Est, les crédits d'intervention délégués sont de 48,2 millions d'euros pour des actions dans les territoires infradépartementaux du Haut-Rhin, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, qui représente 27 départements. Nous en avions également parlé l'an dernier, cette fois-ci qui s'est fait pour le premier appel à projet qui a été publié en mars 2023. C'est un appel à projet qui découlait d'un appel à projet CAF préparé par la DGFP, représenté aujourd'hui par Juliette Lévy, comme ici, c'est parmi nous. Appel à projet CAF qui a été repris dans les 6 REP, donc les 6 grandes régions versant l'État qui gèrent les crédits exigés en France. Sur ce premier appel à projet, c'est un opérateur principal qui a répondu au CODESI qui, dans sa demande, accompagne les salariés qui ont besoin de développer leurs compétences au sein des entreprises les plus émettrices de CO2 visées par le CODESI. Le deuxième appel à projet est actuellement en cours. Il est publié depuis le 20 octobre 2023 jusqu'au 20 février 2024. À l'époque, vous avez 3 demandes en cours. Nous en sommes aujourd'hui à 5 demandes. Alors, ce deuxième appel à projet, validé par la DGFP, comme l'ensemble de nos appels à projet d'ailleurs, s'est voulu généraliste afin de permettre aux porteurs potentiels dans les territoires éligibles de déposer des actions pour des salariés, des actions d'accompagnement, formation et ou des actions de reconversion, également des actions à destination des demandeurs d'emploi afin de les accompagner vers tous métiers d'un secteur non polluant ou vers les secteurs de diversification identifiés dans le plan territorial de transition juste en Grand Est. Enfin, ce deuxième appel à projet porte également et ouvre la possibilité de cofinancer des actions d'ingénierie, d'études de besoins en compétences, d'anticipation des multiples ou encore des études sur les besoins en formation continue. Un point sur le taux de programmation, comme vous l'avez vu, un appel à projet publié l'an dernier, un appel à projet passé en comité de programmation et conventionné, donc au jour d'aujourd'hui, grâce à ce premier dossier programmé présenté l'année dernière, nous sommes à un taux de programmation en lieu de 37,34%. Quelques mots sur les dernières avancées et les projets de modification du programme national du Fonds de transition juste. Donc ce sont des projets de modification en cours qui ouvrent le programme national soit des nouvelles actions, soit précisent davantage les porteurs d'actions qui étaient déjà possibles, en tout cas prévues dans le programme national, mais qui ouvrent à d'autres porteurs. Donc le premier élargissement, en tout cas le premier projet de modification, concerne des actions sur le point aide à la recherche d'emploi. L'ajout proposé consiste en des actions de mise en adéquation et en relation des demandeurs d'emploi avec l'offre d'emploi générée par les secteurs de diversification sur les territoires FTJ, via notamment des speed dating de l'emploi, du tutorat ou encore de la découverte des métiers. Autre modification possible, c'est d'ajouter la mention de l'IAE, insertion par l'activité économique, au point N, qui est le point de l'inclusion active des demandeurs d'emploi, et ainsi mettre en cohérence le programme national avec les deux PTTJ concernés. Nous ne sommes pas concernés dans le Grand Est. Autre ouverture au projet de modification qui consiste à soutenir l'apprentissage et l'alternance dans les secteurs de diversification. Donc la Commission a répondu favorablement à la possibilité de soutenir l'apprentissage et l'alternance dans les secteurs de diversification. Toutefois, la Commission ne conditionnera pas l'ouverture de cette possibilité à la seule modification dans le programme national, mais à sa justification, donc à la façon dont nous justifierons l'intervention du FTJ qui sera intégrée au plan de transition. Les derniers points de modification, ou en tout cas de rappel, c'est la rétroactivité sur le compte transition juste, à savoir que si la modification du programme ne nécessite pas l'ajout d'un nouveau domaine d'intervention, la rétroactivité est possible. Le soutien aux grandes entreprises, donc en l'occurrence les opérations qui viseraient au soutien au capital humain dans le cadre du fonds de transition juste, ne pourraient conséquent, le soutien aux grandes entreprises est possible au titre des points 4, perfectionnement de reconversion des travailleurs et des demandeurs d'emploi, et du point L, aide à la recherche d'emploi à l'intention des demandeurs d'emploi, de l'article 8 du règlement FTJ, sans avoir à se rapprocher de la commission. Et enfin, le dernier point de modification, projet de modification, c'est un point très important sur l'éligibilité géographique des participants, à savoir l'évolution récente de l'interprétation de l'éligibilité géographique des participants dans un souci de simplification validé par la commission. Si le lieu de l'action se situe dans les zones d'emploi éligibles au FTJ, et il y en a 11, la vérification de la résidence des participants n'est pas nécessaire. Si l'action se déroule en dehors des zones d'emploi éligibles, pour un salarié, il faudra justifier son rattachement à une entreprise éligible, ce qui suffira, et pour un demandeur d'emploi, il sera vérifié que sa résidence se situe dans l'une des 11 zones d'emploi éligibles. J'en ai terminé pour les réponses.
Merci. Je propose que nous poursuivions avec la communication. Je vais céder la parole à Alexandra Bonin et Louise Blum.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, Alexandra Bonin, chargée de communication à la région Grand Est. Donc, je vais vous présenter le bilan des actions de communication pour l'année 2023, qui a commencé avec deux journées de lancement à Nancy et Chalon au mois d'avril 2023, où le cœur de cible était les bénéficiaires et les institutionnels, avec une cible secondaire concernant le grand public. L'objectif principal était donc d'informer sur le démarrage de la nouvelle programmation 21-27 et d'accompagner également les porteurs de projets avec une prise de rendez-vous. Les résultats de cette action sont environ 200 participants à Chalon et à Nancy, mais également un relais sur le site internet et sur nos réseaux sociaux Bioeurope en Grand Est, Facebook et LinkedIn. Ces deux journées ont été suivies d'un tour FEI, une tournée des territoires du 25 avril dernier au 13 juin, où le cœur de cible était bien le grand public, mais avec des cibles secondaires qui étaient les élus et la presse, où l'objectif était de valoriser le soutien à la fois de l'Union européenne, mais aussi de la région Grand Est en tant qu'autorité de gestion, et de sensibiliser la presse et les élus régionaux. Il y a eu 12 étapes dans les 12 territoires de maison de région, et dont 8 projets visités en politique de cohésion FEDER et FSE mélangés. Par la suite, lors du mois de l'Europe 2023, nous avons fait des sensibilisations dans 2 lycées différents, dont la cible était donc les jeunes et les lycéens, et l'objectif était de sensibiliser ces jeunes sur l'existence des fonds européens dans leur quotidien. Et le résultat est plus de 100 lycéens à Thionville et Aubernay, et en relais à la fois sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Comme je le disais précédemment, les réseaux sociaux et notre site ont été aussi une de nos actions principales, avec une cible grand public et bénéficiaire. Et l'objectif était donc d'informer sur à la fois l'existence des fonds européens, mais aussi sur les projets qui ont été financés sur tout le territoire de la région Grand Est. Le résultat est à environ 2 posts par semaine, avec 15 à 25 likes sur LinkedIn, mais aussi 5 à 10 likes sur Facebook.
Alors, un petit focus sur notre stratégie de communication pour cette année 2024. Donc, nous allons poursuivre nos actions et notamment notre cœur de cible, qui est donc le grand public et plus particulièrement la jeunesse en Grand Est. Donc, l'idée, c'est bien de développer une approche naturelle et positive de l'action de l'Europe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire opter pour un discours simple, lisible, accessible à tous, mais également, bien sûr, montrer l'utilité des fonds européens au quotidien, dans la vie des jeunes et des habitants. Et puis incarner ces fonds européens, donc valoriser les projets bien sûr, mais valoriser surtout les porteurs de projets. Donc les moyens pour mettre en œuvre ces objectifs sont la création du pôle valorisation au sein de la DFE, donc un pôle tout nouveau. On renforce d'ailleurs ce pôle-là avec le recrutement de 2 agents en charge de la valorisation et de l'animation du réseau rural et agricole. en plus de nos deux chargés de communication actuels. Et on va s'appuyer largement sur les chargés de visibilité territoriale qui sont recrutés en ce moment. Certains sont déjà arrivés en maison de région pour organiser des événements en lien d'action, donc des actions en lien avec le public, le grand public. Et bien entendu, nous allons profiter des élections européennes, du mois de l'Europe à venir, des Jeux Olympiques. Donc ce sont tout ça des opportunités hein, pour communiquer plus largement auprès de notre cœur de cible. Et la slide suivante. Merci. Alors, quelques actions de valorisation prévues hein, pour illustrer tous ces propos. Le Tour Fézi, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc une tournée des territoires, visite de projets, valorisation des porteurs de projets. Donc, ce Tour Fézi, il y a une édition 2024 hein, qui a déjà débuté, avec pour la partie politique de cohésion, plus de 24 projets et porteurs de projets qui seront rencontrés. Également, bien sûr, un suivi et une valorisation des différents événements à venir sur donc les opérations d'importance stratégique. On en a parlé tout à l'heure, et les projets de plus de 10 millions d'euros. Donc ça, c'est sur toute la période de programmation. L'action dans les lycées qui a bien fonctionné en 2023, eh bien, on recommence en 2024 et on amplifie, puisque donc ça sera 12 lycées hein, dans chaque maison de région. Où on aura des événements spécifiques durant le mois de l'Europe hein, pour intéresser les jeunes au fonds européen. Et la création de capsules vidéo et photos, donc ça, on a plus de 50 projets que l'on souhaite valoriser hein, avec la création de petites vidéos qui parlent peut-être encore plus au grand public et aux jeunes. Et enfin, une bibliothèque de projets qu'on construit et qu'on alimente et qu'on continuera à le faire en 2024 et pour les prochaines années, voilà, qui nous permettent d'avoir de bien valoriser tous ces projets.
Merci. Et si, ceci est un message que je vous lance, si vous avez sur vos territoires des projets que vous considérez comme remarquables, exemplaires, avec un impact sur la vie de nos concitoyens ou pour la vie de nos territoires, n'hésitez pas à le faire remonter de sorte à ce que nous puissions le valoriser. Alors, peut-être pas forcément dans le cadre de la tournée des territoires, mais dans le cadre d'un autre moment de communication qui pourrait être extrêmement intéressant à la fois pour vos territoires, mais aussi pour la promotion de l'action européenne. Nous allons poursuivre avec l'aspect communicationnel, mais sur les programmes nationaux FSE+ et FTJ. Je vais donc céder la parole à Mme Sperrer et M. Otero.
Merci. Quelques mots sur notre plan com préparé avec toi, Grégory, notre chargé de com. Sur notre communication, nous mettons évidemment en ligne l'ensemble de nos appels à projets sur le site fse.fr et sur le site de la presse française également. Nous publions depuis janvier, depuis quelques temps maintenant, depuis mai 2020, la dernière parution, en janvier 2024, pardon, nous publions une newsletter qui est adressée à beaucoup d'acteurs, de partenaires, aux organismes intermédiaires. Nous diffusons des informations sur le programme FSE+ et FTJ, qui me redonne l'occasion de remercier les organismes intermédiaires présents aujourd'hui, qui se sont rendus disponibles. Nous publions également sur le site internet de la presse Grand Est un certain nombre d'informations via cette lettre qui peuvent être retrouvées via ce canal-là pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés. Nous recevons les demandes d'abonnement et de suggestions sur la boîte lettre institutionnelle que vous avez. Et enfin, parce que la communication est portée avec le service com de la DGFP, avec le service com de la presse Grand Est, nous valorisons également des projets qui sont soutenus dans le cadre du programme national FSE+. Les deux derniers sont un projet porté par la préfecture Moselle et par les Parcours Blancs en Champagne. Ce sera tout.
Merci Monsieur Otero. Nous sommes arrivés au bout de notre comité de suivi et nous avons écoulé l'ordre du jour de notre réunion. Est-ce que il y a encore dans l'Assemblée des questions, des demandes d'intervention? Et s'il n'y en a pas, propose que nous concluons. D'abord, je vous remercie pour votre participation à cette réunion, pour vos contributions. Vous constatez que ce comité de suivi, il est certes riche, mais il est très intéressant, il est très instructif. Et puis, vous constatez aussi qu'au-delà des montants qui sont annoncés, de la volumétrie des dossiers qui sont annoncés et qui peuvent paraître très importants, ne sous-estimons pas l'impact réel et concret qu'ont les financements européens au quotidien. D'abord pour l'attractivité de nos territoires. Nous parlions par exemple de nombreux équipements de proximité qui sont financés par les fonds européens, et ce sont ces équipements de proximité qui très certainement et très souvent sans cofinancement ne pourraient pas voir le jour, mais qui sont essentiels parce que pour un village ou pour une ville moyenne, avoir son plateau sportif, avoir sa boulangerie, avoir sa salle polyvalente, c'est essentiel pour continuer à attirer des familles sur le territoire. Nous pourrions aussi parler du bien-être de nos concitoyens, puisqu'il y a aussi des projets en ce sens. Lorsque vous aménagez les espaces publics, et bien ça a un impact très direct sur le cadre de vie des habitants de la région. Et lorsque vous agissez sur la transition énergétique, et je pense notamment à toutes vos actions vis-à-vis des bailleurs sociaux, là aussi vous agissez directement sur le quotidien de nos concitoyens. Puisque lorsque vous avez des familles qui habitent dans des logements qui ne sont pas isolés, qui sont mal chauffés, et que grâce aux fonds européens, les bailleurs sociaux peuvent rénover les bâtiments, ça apporte non seulement un meilleur confort aux familles, mais en plus ça agit sur la facture énergétique. Donc là encore une fois, c'est un exemple très concret de ce que nous apportons. Et puis enfin, il y a un autre sujet, pas des moindres, c'est la compétitivité de nos entreprises, puisque nous finançons leur développement, nous finançons aussi la recherche et l'innovation. Je pense que ça contribue très fortement à la croissance de nos entreprises. C'est essentiel, puisque en finançant la croissance des entreprises, nous consolidons l'emploi en grand tête et nous générons aussi des créations d'emplois. Nous souhaitons évidemment poursuivre sur cette voie, poursuivre le soutien à nos territoires, et pour y parvenir, nous ne pouvons pas évidemment le faire seul. Nous avons besoin de vous tous et vous tous, puisque ce sera évidemment une réussite qui sera collective. Je vais céder la parole à M. Lacoste, le chef de la mission diplomatique donc auprès de la préfète de région, pour une conclusion.
Oui, pas une conclusion, mais peut-être juste des remerciements pour vous remercier de votre participation. Ces comités de suivi, je le disais, ils ont un aspect un peu austère, hein, parce que forcément, il y a des chiffres, il y a des histogrammes, et merci aux présentateurs aussi de l'avoir fait de manière la plus pédagogique possible. Et je crois que c'est aussi l'occasion, je sais que le dialogue existe avec les équipes qui gèrent ces programmes à la région, dans les services de l'État, et je pense que sans vouloir, je dirais, lancer une invitation qui ne me revient pas, mais que si certains d'entre vous peuvent profiter de cette occasion pour dialoguer directement, y compris avec les représentants de la commission qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de venir avec nous, ce sera une manière aussi d'échanger plus précisément sur tel ou tel projet. Merci encore à toutes et à tous.
Madame Doucou, pour la Commission européenne, quelques mots de conclusion.
Oui, on va pas s'attarder, on peut juste conclure en vous remerciant beaucoup pour l'organisation de ce comité de suivi. C'est toujours très important de se retrouver sur le territoire pour discuter de l'avancement des programmes. Je retiens ces derniers points sur la communication qui, je réitère, sont très importants, notamment cette année. Je vois que vous avez mis beaucoup d'efforts l'année dernière et encore aujourd'hui, donc je vous invite à continuer sur cette voie-ci.
Merci. Et puis mes remerciements vont aussi à l'ensemble des équipes de la délégation des fonds européens pour la préparation, l'organisation de ce comité de suivi qui s'est très bien tenu avec à la fois un contenu très riche, très qualitatif, et puis des échanges de qualité. Et puis je vous remercie aussi pour tout ce que vous accomplissez au quotidien pour la bonne utilisation de ces fonds européens. Merci à vous toutes et à vous tous, et je vous souhaite une très bonne journée.